Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur 48FM. Ce journal vous est présenté par Élodie Petitpas.
Bonjour à toutes et à tous, voici les titres de ce journal. C'est le dernier jour de la COP30 et aucun accord n'a encore été trouvé. Doris Löfgen reviendra sur ces deux semaines de discussion. Problème de cohabitation sur la cyclostrade reliant Colonster au Sartilement. Des voitures empruntent cette autoroute pour vélo. Et puis une énième réunion pour discuter du budget a eu lieu hier soir à Bruxelles. Le PS était absent à la table des négociations. Initier les jeunes aux médias, c'est l'objectif de la semaine de l'éducation aux médias. Plus de 200 activités ont été organisées. Il ne reste plus que quelques heures aux 197 ministres de l'Environnement pour trouver un accord à la COP30. Doris, quel est le maître mot de cette COP?
Cette COP30 à Belém est particulièrement tendue. Deux semaines de discussion et les négociations restent compliquées. D'abord, le gros point de tension, c'est encore et toujours les énergies fossiles. Les pays sont divisés sur la manière d'accélérer la transition. Certains veulent un engagement clair, d'autres sont beaucoup plus prudents. C'est ce débat-là particulièrement qui ralentit l'avancée du texte final.
Et Doris, il y a aussi eu un autre élément marquant.
Oui, les peuples indigènes ont mené plusieurs actions pour dénoncer les projets pétroliers et miniers qui menacent leur territoire. Ils demandent plus de protection et plus de place dans les décisions. Derrière ces discussions, il y a des enjeux beaucoup plus larges, notamment la question des climato-sceptiques. Xavier Fetwes, professeur de climatologie à l'Université de Liège, n'était pas présent sur place, mais il revient sur cette science du climat et sur le fait que le réchauffement n'est plus contestable.
Dans les années 90, on pouvait être climato-sceptique parce que les modèles suggéraient un réchauffement qu'on n'observait pas encore. Maintenant, on l'observe, il n'y a plus aucun doute. Et d'ailleurs, dans son dernier rapport, le GIEC a conclu que c'est sans équivoque, le réchauffement climatique est dû aux activités humaines. Les climato-sceptiques, le problème, c'est qu'ils ont des intérêts ailleurs, notamment dans les énergies fossiles. Ils préfèrent nier ce problème-là. Je veux dire, si notre médecin nous dit qu'on est malade, est-ce qu'on va remettre en question le médecin? Et nous, les climatologues, si on leur dit quelque chose, je ne sais pas pourquoi on nous remet en question alors qu'on est des scientifiques et qu'on est... Le GIEC, ce n'est pas quelques scientifiques, ce n'est pas quelques climatologues. On est une communauté de 10 à 100 000 scientifiques qui co-signent ce rapport-là. Et donc, dans la communauté scientifique, il n'y a plus aucun doute. Mais il y a des gens qui sont payés, et notamment aux États-Unis. Trump, il a limogé tous les chefs des instituts météo, il est allé placer ses pions, qui sont payés pour dire le contraire.
Certains commencent à douter de la réelle utilité de toutes ces COP, mais Xavier Fetwes nuance. Selon lui, ces sommets permettent quand même d'éviter le pire et d'améliorer la coopération entre pays, même si les décisions avancent trop lentement.
Les COP ont l'avantage à deux choses. Déjà, s'il n'y avait pas eu les COP, on serait plutôt dans une trajectoire plus 4, plus 5 degrés à la fin du siècle. Alors ici, maintenant, on est plutôt dans une trajectoire plus 3, plus 3,5. Donc c'est déjà mieux, ce n'est pas l'idéal, on n'est pas aux accords de Paris. Deuxième chose, il y a un partage des technologies des pays du Nord vers les pays du Sud. Les pays du Nord ont montré le mauvais exemples en misant tout sur les énergies fossiles, ben, si on a l'occasion de développer les énergies renouvelables dans les pays du Sud, ben, au moins ça évitera chez eux les erreurs qu'on a fait chez nous. Le problème des COP, c'est que souvent on veut faire une décision que tous les pays prennent. Si un tel pays ne le fait pas, alors je ne fais rien et ainsi de suite. Mais ça, maintenant, il faut arrêter. Et les Européens, donc, lutter contre le réchauffement climatique, c'est se passer des énergies fossiles. Les Européens ont un intérêt économique de se passer des énergies fossiles. Pour le moment, on dépend des pays arabes, des Russes, des Américains, pour avoir du gaz et du pétrole. Autant directement miser sur les énergies renouvelables, on sera comme ça indépendant énergiquement des autres pays.
Doris, la transition ne dépend pas seulement des grandes conférences internationales.
Non, en effet, elle passe aussi et surtout par des choix très concrets en Europe et chez nous, en Belgique, notamment dans les transports et notre manière de consommer.
Pour se passer des énergies fossiles, il y a deux choses à faire. Diminuer notre consommation énergétique et aller vers les énergies renouvelables. Et en Europe, il y a assez d'énergies renouvelables, il y a notamment beaucoup de vent au Groenland, et au sud de l'Europe, il y a beaucoup de soleil. Donc si on interconnecte tout ça, il y a moyen de vraiment se passer des énergies fossiles. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, en Belgique notamment, nos émissions de gaz à effet de serre, ça provient principalement des transports. Et transport notamment des marchandises, c'est-à-dire qu'on a fermé en Belgique toutes les usines et on achète en Chine et ça vient en avion jusque chez nous. C'est clairement quelque chose qu'il faut éviter, c'est-à-dire qu'il faut essayer de faire revenir les activités chez nous et d'acheter local pour éviter tous ces transports.
Ce sont donc, Élodie, des discussions encore très tendues, des positions qui restent éloignées et un accord final qui n'est toujours pas garanti à l'approche de la fin de ce sommet.
Merci Doris. Et pour compliquer ces négociations déjà difficiles, hier, un incendie a perturbé le sommet. Les négociations ont été stoppées, le temps de maîtriser les flammes. 19 personnes ont été intoxiquées. Les causes de l'incendie n'ont pas encore été communiquées. La nouvelle cyclostrade reliant Colonster à l'université du Sertilement, inaugurée cet été, fait déjà parler d'elle. Et pour cause, certaines voitures se sont retrouvées à circuler sur cette autoroute à vélo. C'est un manque de signalisation qui induit les automobilistes en erreur. Plusieurs riverains ont témoigné de ces problèmes de sécurité à la députée liégeoise Diana Nikolic.
Moi, j'ai été avisée par différents riverains usagers de la cyclostrade, donc reliant le moulin de Colonster au site du Sertilement, qui me disaient en fait qu'il y a pas mal de voitures qui prennent par erreur en fait la cyclostrade. Des aménagements vont être faits en termes de signalisation. Et par ailleurs, cette situation problématique, mais en voie de se résoudre donc, va être intégrée dans la réflexion générale sur les cyclostrades, en gros comme un exemple de ce qu'il ne faut pas faire et une fois que ce sera résolu sur le terrain, ben, un exemple de bonne pratique future pour les autres cyclostrades. Comme quoi, parfois, le fait de soulever un problème peut permettre de trouver des solutions. Et ça, on peut s'en réjouir.
Une interview de Louis Noël. Une grève nationale est prévue la semaine prochaine. Les syndicats ont annoncé se mobiliser les 24, 25 et 26 novembre. Il s'agira d'une grève multisectorielle. Cela pourrait notamment vous impacter si vous utilisez les services de la SNCB ou du TEC. C'est le cas de bon nombre d'étudiants à l'Université de Liège qui se retrouveront donc affectés, comme le montre ce témoignage recueilli par Doris Lofgen.
J'habite à Verviers, donc je ne côte pas. Forcément, j'utilise les transports en commun, je dépends des transports en commun pour venir ici. J'utilise le train, j'utilise le tram, le bus. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué lorsqu'il y a grève, parce que je ne sais pas du tout comment je vais pouvoir me rendre. Mes parents, ils travaillent, donc c'est un peu compliqué pour eux de me conduire en cours. Et en fait, c'est très embêtant parce que j'ai des cours qui sont pratiques. Et si je ne viens pas, je vais louper pas mal de choses qui seront difficiles à reprendre par la suite. Je compatis fortement et je comprends l'envie de faire grève. Et je comprends que c'est important de bloquer pas mal d'institutions, pas mal de transports, etc., histoire d'avoir un impact un peu plus conséquent. Mais c'est vrai qu'au final, ça m'embête moi, ça embête pas mal de camarades. Donc c'est un peu une situation qui est délicate.
Une réunion à huis clos se tiendra ce soir pour décider qui succédera à la tête du parti écolo après la démission du duo Lecoq Kongolati. Stéphane Azé, le chef du groupe au gouvernement wallon, et Zakia Katabi sont pressentis pour former cette présidence intermédiaire. Une nouvelle qui ne ravirait pas l'intéressé. Interrogée sur cette possibilité, l'ancienne ministre a déclaré « ce n'est pas le scénario que je privilégie ». Toujours en politique, la formation du gouvernement bruxellois n'avance pas vraiment. Hier, le Parti socialiste n'a pas répondu à la convocation de Georges-Louis Boucher. Il manquait donc un parti pour négocier sur l'attribution du budget fédéral. Le PS attend des excuses de la part de Frédéric Van Gucht. Ce député Open VLD a comparé le PS à un alcoolique inconscient de sa dépendance. Pour lui, le Parti socialiste aurait une addiction aux dépenses. La troisième édition de la Semaine de l'éducation aux médias touchera à sa fin dimanche. Tout au long de cette semaine, plus de 200 activités ont été organisées pour permettre aux jeunes de comprendre le rôle des médias. Rencontres avec des journalistes, visites de médias, animations, ateliers et bien d'autres activités étaient au programme, un sujet de Louis Noël.
Aujourd'hui à la Grand Poste, dans le cadre de la Semaine des médias, les élèves de l'école de Saint-Barthélemy ont pris leur première marque en radio. Bien parler dans le micro, articuler, suivre la conduite, les élèves ont appris les bases de ce métier et ils ont adoré.
Aujourd'hui, on était là pour un projet de podcast avec notre option Hardex. J'ai bien aimé parce que généralement, il y a beaucoup de gens qui ne sortent pas à l'aise visuellement parce que pour regarder les gens, etc., par exemple, pour regarder dans les yeux, etc. Et donc, juste le fait d'avoir notre voix, ça nous met beaucoup plus à l'aise et c'était plutôt chouette.
C'était assez amusant, oui. C'était une bonne chose, une bonne expérience. Franchement, j'ai bien aimé. C'était la prise d'essai était assez stressante, mais après, je me suis senti à l'aise et c'est passé.
Sébastien Gros, chargé de mission au Conseil supérieur de l'éducation et organisateur de ce projet, nous explique le but de cette semaine dédiée aux médias.
C'est une semaine pour faire le focus, comme son nom l'indique, sur l'éducation aux médias en Fédération Wallonie-Bruxelles, et elle s'adresse principalement aux élèves du secteur de l'enseignement obligatoire, donc de la maternelle à la fin du secondaire. La thématique de cette semaine, c'est le monde, les médias et nous. Donc c'est un peu interroger la manière dont les médias font sens pour nous et la manière dont nous voyons le monde à travers eux.
Ces trois éditions ont eu beaucoup de succès. Une quatrième édition peut donc être espérée. L'équipe Israël Première Tech va changer de nom. Elle deviendra l'équipe NSN Cycling Team. Ce changement survient après des mois de tensions autour du nom de l'équipe. Des étapes du Tour d'Espagne 2025 avaient été annulées et l'équipe n'avait pas roulé les dernières courses de la saison. Continuons avec la rubrique sport présentée par Tom Gerd. En football féminin, Aude Everley-Louvain jouait en Ligue des Champions et a réalisé une bonne performance en faisant un partage.
Oui, elles ont partagé face à la Roma pour la quatrième journée de phase de ligue de la Ligue des Champions féminine en football. C'est un magnifique exploit pour nos Belges qui ont égalisé à la 71e sur pénalty. Toujours pour rester sur du foot, le Standard affrontera aujourd'hui Zulte Waregem à 20h45 pour la 15e journée de Pro League. Zulte Waregem occupe actuellement la 8e place avec 19 points et le Standard la 10e avec 17 points. L'Italie est fixée sur ses matchs de barrage pour rejoindre la Coupe du Monde 2026. Elle devra d'abord se défaire à domicile de l'Irlande du Nord avant de se rendre soit au Pays de Galles, soit en Bosnie-Herzégovine pour tenter de décrocher son ticket pour la Coupe du Monde 2026.
En hockey sur glace, les Bulldogs de Liège pourraient se qualifier pour la finale de Coupe de Belgique. Pour cela, il faudra battre ce samedi les Mechelen Golden Sharks.
Enfin, en cyclisme, Lotto Kopecky a remporté pour la 6e fois d'affilée le vélo de cristal. Il s'agit d'un prix remis par le journal flamand Outlast News qui récompense chaque année les meilleurs acteurs du cyclisme belge depuis 1992.
Merci Tom, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous lundi, même heure, même fréquence. Belle journée à toutes et à tous sur 48 FM.